France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Les échanges auront duré plus de 8 heures, retransmis en direct sur France Culture et franceculture.fr jusque tard dans la nuit. Emmanuel Macron a débattu avec 64 intellectuels à l'Élysée dans le cadre du grand débat national. Il en a profité pour condamner fermement les gilets jaunes les plus radicaux, défendant aussi ses réformes. On ne peut pas s'arrêter à la tyrannie d'une irréductible minorité, a-t-il ainsi lancé. Le chef de l'État a écarté le retour sur l'ISF et le non-cumul des mandat. Il a aussi rejeté une hausse des droits de succession et l'expérimentation d'un revenu universel de base. Par ailleurs, a-t-il dit sur France Culture, la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État ne sera pas amendée, comme il l'avait jusque-là envisagé, suscitant l'inquiétude des responsables de culte en France. Compte rendu de ce débat entre le président de la République et ses intellectuels à retrouver sur franceculture.fr. Les gilets jaunes évoqués donc hier soir, évoqués aussi tout au long de la journée, deux jours après les violences et les dégradations sur les Champs-Élysées à Paris. Hier, le Premier ministre Édouard Philippe a présenté plusieurs mesures. D'abord, la possibilité d'interdire des manifestations dans certains quartiers déjà touchés par les dégradations, si la présence de casseurs est avérée. Les amendes, par ailleurs, en cas de participation à des manifestations interdites, ces amendes sont augmentées. Et puis, le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, a été limogé hier. Il sera remplacé par l'actuel préfet de la Nouvelle-Aquitaine, Didier Lallement. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, doit être entendu aujourd'hui au Sénat. Idem pour le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Mobilisation interprofessionnelle ce mardi à l'appel de plusieurs syndicats dont la CGT et Force ouvrière. Cette journée devrait être particulièrement suivie dans les écoles maternelles et élémentaires. 4 enseignants sur 10 ont indiqué qu'ils ne feraient pas classe. Ils protestent contre la loi sur l'école de la confiance votée le mois dernier à l'Assemblée nationale. Et puis ce rapport publié ce matin, 780 000 personnes meurent de maladies liées à une eau impropre à la consommation dans le monde chaque année. C'est un constat de l'ONU, l'organisation qui rappelle par ailleurs que l'eau a joué un rôle dans plus de 260 conflits depuis 2010.
France Culture présente « La machine de Turing » de Benoît Solès. Manchester, 1952. Le mathématicien Alan Turing détient de nombreux secrets. Son rôle pendant la guerre, ses recherches sur les machines pensantes ou sa vie privée. Le sergent Ross va donc enquêter sur un homme qui a brisé les codes des sous-marins allemands, mais aussi ceux de la société anglaise. Histoire, science, espionnage, romance, voici le destin d'un génie atypique qui a changé le monde. La machine de Turing, de Benoît Solès, jusqu'au 30 novembre au Théâtre Michel à Paris. Un partenariat France Culture.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture et nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Le Musée national de l'histoire de l'immigration au Palais de la Porte Dorée à Paris propose depuis cette semaine une riche exposition immersive Paris-Londres 1962-1989, Music Migration, qui illustre à merveille tout ce que musicalement Paris et Londres doivent à leurs anciennes colonies. De 1962 donc, date de l'indépendance algérienne, jusqu'en 1989, date de la célébration du bicentenaire de la Révolution française, en 3 décennies, comment la musique populaire française et britannique ont été nourries par ces sons venus. D'ailleurs, c'est l'exposition que je vous recommande. Vous avez le temps, c'est jusqu'au 5 janvier, mais si vous n'habitez pas Paris, si vous devez être appelé à passer par la capitale française, surtout, ne ratez pas cette exposition.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
5 janvier 2020, bien entendu. Et avec moi pour parler de cette exposition Paris-Londres 1962-1989, deux des commissaires d'exposition. On va commencer par Angeline Escarfé-Dublé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes de Paris. Et Martin Evans, vous êtes anglais, hein, et vous avez vécu très longtemps à Londres.
Oui, surtout dans le quartier de Brixton, ça c'est qui est un quartier très important dans l'exposition.
Absolument, on va en parler. Et vous êtes tous les deux historiens, on peut le dire. Histoire de l'immigration.
Et histoire contemporaine. Hein.
Histoire contemporaine. Alors, cette exposition, c'est une exposition où on va voir des documents. On voit beaucoup de documents, des archives. On écoute beaucoup de musique. Et puis, bien sûr, il y a des objets, comme dans chaque exposition, dans un musée. Alors, l'idée de départ, c'était quoi? C'était de dire qu'on a tourné une page, celle de la colonisation.
Non, le point de départ, c'était de mettre ensemble deux villes globales.
Paris et Londres,
juste après la fin de leurs empires. Et ça, c'était pour la première fois, vraiment de mettre ensemble les deux villes globales comme un type de montage, de voir comment les deux histoires complexes sont différentes et comment, à quel point ces deux histoires se ressemblent. Donc ça c'est l'idée fondamentale, c'est une démarche comparative.
Et surtout, ce qui nous a intéressé, c'était d'utiliser donc la musique pour raconter une nouvelle histoire du rôle des vagues migratoires à transformer ces deux villes. Donc, ils passent donc de deux anciennes capitales d'empire à devenir ces métropoles internationales qui aujourd'hui mettent énormément en avant leur diversité culturelle. Et une des choses qui nous a frappé, c'est que Londres comme Paris ont argué qu'elles étaient des villes de la diversité pour gagner les Jeux Olympiques.
C'est très optimiste, hein, cette exposition. Hein. C'est-à-dire, ça commence par c'est la période des yéyés. D'ailleurs, ça commence comme ça, pour dire à quel point c'était très centré sur la culture, soit sur la culture locale, soit sur la culture américaine. Et ça se termine en disant, voilà, dans la variété française, dans la variété anglaise, toutes les influences qui sont venues de ces pays qui étaient des anciennes colonies. Et Martine, Eva, ce n'est pas tout à fait d'accord avec moi, je pense.
Non, c'est important de souligner, on a commencé avec une émission de la BBC sur le scar de Jamaïque. Donc ça, c'est vraiment dans l'image optimiste de l'indépendance de Jamaïque, qui est en même temps que l'Algérie. Donc ça, c'est pourquoi on a choisi 62 comme le point de départ. C'est de faire un pont entre les Algériens et les Jamaïcains. Par exemple, pour les Jamaïcains, personne n'est plus rebelle que des Jamaïcains. C'est vraiment une culture qui est fière de ce côté rebelle, et on voit ça à travers la musique avec le reggae, le sound system. Mais au début, ça montre l'aspect optimiste de l'indépendance avec le ska qui avec beaucoup d'énergie. Donc, on commence avec un film qui est filmé à Kingston, à Jamaïque, dans une boîte de nuit célèbre, le Sombrero. Et ça montre les connexions à travers des espaces.
Et comment ces musiques, qui vont être très longtemps des musiques pour communauté, c'est des musiques communautaires, vont avoir petit à petit, progressivement, leur place dans la culture des deux pays que sont la France et l'Angleterre?
Moi, je dirais pas que on a été complètement dans un monde idéal avec cette histoire des musiques. Au contraire, ce qu'on a quand même essayé de montrer, c'est à quel point il y a un lien entre musique et politique. Parce que ce qu'on a voulu montrer, c'est le rôle de la musique à venir renforcer les combats politiques et cette relation un peu dialectique entre musique et politique. C'est-à-dire que la politique prend plus d'ampleur avec la musique, mais la musique prend aussi plus de force avec les messages politiques qu'elle peut convoyer.
En 1964, on ne dit pas encore World Music. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là?
Ça, c'est le point de
Martin Evans.
Oui, c'est un point de vue d'une histoire multiculturelle. On voit ça à travers cette chanson. C'est vraiment un point de départ capital pour moi. Donc voilà.
Alors expliquez-nous pourquoi.
Parce qu'à travers cette chanson, on voit l'influence caribéenne des Caraïbes.
Le nom de la chanteuse
C'est Malismo. Et cela veut dire comment cette influence musicale est en train de s'ancrer dans le paysage britannique d'une façon décisive. Donc c'est ça qui est très important. Et dans le catalogue, on raconte comment, très jeune, c'est Paul Gilroy, qui est maintenant un intellectuel très, très, très important sur le postcolonialisme, il montre pour sa famille, c'était une chanson quoi, qui montre l'impact de leur propre culture sur le mainstream.
C'est la seule chanson qui atteint les charts pendant britannique en 1964 et qui donc reflète cette possibilité pour les musiciens jamaïcains puis caribéens à atteindre. Et c'est un peu la seule aussi.
Angélique,
c'est l'exception qui confirme la règle.
Est-ce qu'après Dublé, mais surtout pourquoi ça va avoir beaucoup de succès? C'est pour ça que j'ai utilisé le terme de world music qui n'apparaît pas dans les années 60. On le verra apparaître après, notamment avec des médias comme Actuel et Radio Nova, très présents d'ailleurs dans cette exposition Paris-Londres 1962-1989. Mais parce que c'est quand même un morceau qui va être produit par Chris Blackwell, le fameux Chris Blackwell qui va tant faire pour la musique du monde. Et le reggae et Bob Marley, parce que il y a quand même une différence, et des fois dans cette exposition on se perd un peu entre les musiques qui viennent des pays d'origine, c'est-à-dire les musiques produites en Afrique du Nord, en Afrique, en Jamaïque ou bien au Pakistan, et les autres musiques avec des interprètes, des musiciens de ces pays-là mais qui vivent déjà soit en France soit en Angleterre et qui vont être produits suivant les normes des deux pays qui les accueillent.
Mais ça c'est une histoire très complexe. Il y a un autre exemple qu'on peut donner peut-être, c'est la chanson des Beatles, Obladi Oblada. Donc ça c'est une vraiment chanson ska. C'est une chanson ska sur le White Album qui est sorti en 1968. Mais le titre vient du musicien qui était présent à Londres depuis longtemps, Jimmy Scott, qui était ami avec Paul McCartney. Obladi, oblada, cela veut dire en Yoruban, so it goes. Donc on voit comment cette musique est en train de influencer les courants musicaux en Grande-Bretagne comme les Beatles d'une façon décisive.
Comment ils sont influencés? Parce que ça passe déjà sur les ondes de la BBC, ces musiques qui viennent d'ailleurs, de Jamaïque.
Mais on voit ça dans des lieux, dans les boîtes de nuit. Par exemple, il y a une série de boîtes à Londres, à Soho, comme le Flamingo, dans le Q Club, qui là où on avait un des premiers DJ de Jamaica, Count Circle, qui a introduit un sound system. Et ça, c'est un lieu de rencontre qui était fréquenté par Paul McCartney. C'est là où il a rencontré Jimmy Scott. Et c'est ça qui est important dans l'exposition, de montrer les espaces intimes comme ça.
Ces espaces-là n'existent pas en France dans les années 60. Hein, c'est-à-dire les musiques maghrébines ou africaines restent contenues dans les quartiers, dans les foyers Sonacotra, dans les cafés soit maghrébins, soit africains.
Alors c'est effectivement l'histoire qu'on essaie de raconter dans cette exposition, c'est à quel point au départ les immigrés sont peut-être dans les marges, se sont installés aux interstices dans les interstices de la ville, qui sont les endroits les plus accessibles pour eux, qui coûtent le moins cher, et c'est là que vont effectivement se regrouper et créer des lieux de musique qui leur sont propres. Mais l'histoire qu'on raconte, c'est pour ça qu'on immerge, on essaie de rendre l'exposition immersive pour le visiteur en le plongeant dans des atmosphères différentes, les années 60 d'abord, mais ensuite les années 70 et les années 80. Donc les années 70 vont être un moment de rencontre notamment autour du militantisme et ces interconnexions, enfin ces rapports amis, effectivement ils se rencontrent dans des lieux de musique mais aussi dans des lieux militants, et donc l'exemple qu'a donné Martine avec certains clubs où les Beatles rencontrent d'autres musiciens, on le retrouve à d'autres périodes. Dans les années 70, on a en particulier une interface entre le reggae, le ska et le mouvement punk qui
ça
est forte avec des amitiés qui est forte aussi en France. Alors si c'est vrai que l'exposition est foisonnante et il y a peut-être un panneau qui vous a échappé, mais on a reproduit à quel point il y avait ce genre de connexion en France au niveau de la scène punk et autour de ce mouvement squat de la fin des années 70, début des années 80, autour du le squat Palikao, qui était donc sur la rue Palikao, dans le nord-ouest de Paris, où il y avait des foyers africains dans la même rue, et aussi des jeunes groupes de punk qui se formaient dans ces squats. Et vous diront qu'ils allaient manger au foyer africain, parce que ça coûtait moins cher. On se retrouve dans ces moyens populaires de vie, de sociabilité, et aussi sur la contestation d'un ordre établi. Parce que d'un côté comme de l'autre, on conteste un racisme qui peut être présent, des relations difficiles avec la police, parce qu'on est pingue ou parce qu'on est immigré.
Caminho como aquilo nisso, jubi sola como aqui massim, jubi choba como aqui tá chobe, minca medi mamá, minca medi anca na medi, minca medi mamá, minca medi anca na medi. Si vous cabez la bra, falang que kuna kume. Si vous cabez la bra, nyamai, falang que kuna kume. Si vous cabez pisco, falang que kuna kume. Si vous cabez pisco, papay, que kuna kume.
Tant pis si vous n'étiez pas né dans les années 80, tant pis si vous avez raté Paris, capitale des musiques du monde et des musiques africaines, particulièrement Youssou N'Dour ou, comme maintenant, Touré Koundé qui chante Labrador avec, dans cette exposition Paris-Londres 1962-1989 actuellement au Palais de la Porte Dorée. On peut même avoir la partition de la chanson Labrador. Mes deux invités qui sont les deux co-commissaires de cette exposition, Martin Evans et Angeline Escaffé-Dublé.
Ce qui est important dans l'exposition, c'est d'éviter les clichés. Donc l'idée que pendant les années 60, il y a une présence des immigrés entre guillemets à Londres qui est visible et clair, qui n'est pas le cas à Paris. C'est pas vrai.
Parce qu'on a,
on a par exemple l'exemple de Paul Vigan, c'est le James Brown, marocain. Lui, il est visible. C'est, et puis on a
il est d'autant plus visible qu'il ne chante pas en arabe. Hein, parce qu'il chante en anglais.
Oui, il chante en anglais.
Mais
Nelly
Smol, elle chante pas.
Et puis il y a Jacqueline Taieb comme ça. Et donc ça c'est, à mon avis, c'était une découverte à travers les recherches pour l'exposition, à quel point ces chanteurs maghrébins avaient une visibilité à Paris. En même temps, peut-être en train de nier le racine maghrébine en même temps. C'est ça qui est peu plus complexe.
Ce qui est complexe, c'est qu'à un certain moment, il va y avoir des boutiques de musique en France, comme en Angleterre, où les populations immigrées vont aller acheter les musiques de leur pays d'origine. Et puis, à un certain moment, ça bascule, ces musiques-là vont être produites ici, en France ou en Angleterre. On n'a pas le même son. On n'a pas la même intensité et on est passé à autre chose, c'est-à-dire à l'intégration de ces musiques.
Ce qu'on voudrait quand même surtout montrer, c'est à quel point à Paris et à Londres se créent des styles de musique originaux qui sont des emprunts à la fois à ces pays d'origine, mais qui sont produits, que ce soit à Paris et à Londres, et qui, donc, on parlait de Millie Small qui est masterisée donc, par Chris Blackwell, alors, évidemment ça modifie un peu le son. Et on a essayé aussi renouveler cette évocation. On a parlé on a beaucoup parlé dans d'autres expositions des cafés arabes qui sont présents en France dans les années 60. On a essayé de montrer à quel point un café arabe à Paris, c'était pas la même chose qu'à Alger. Ouais, il y avait aussi
absolument.
Une influence de la façon dont on tournait les clips vidéo qui étaient
les
différentes.
Les Scopitones, les fameux Scopitones. Mais ça, c'est une histoire extraordinaire, les Scopitones de Denise Boyer. Parce que d'abord, les Scopitones allaient s'arrêter. Hein, c'est-à-dire, avec l'arrivée des chaînes de télévision, ils allaient s'arrêter. Et quand ils commençaient à enlever des cafés parisiens, les Scopitones, c'est là où les vendeurs de cassettes d'un quartier arabe à Paris, à Barbès pour le nommer, ont demandé à pouvoir récupérer cette technologie pour enregistrer et faire des Scopitones d'artistes qui étaient tout à la fois d'origine maghrébine, mais qui ne pouvaient pas enregistrer ce genre de chansons, de musique, de clips, puisque les Scopitones, c'est l'ancêtre du clip dans leur pays d'origine. Donc là, on passe quand même à une autre étape. Et ça, l'exposition le montre bien.
Qu'ils auraient enregistré probablement de manière aussi différente. L'idée, c'est de dire que dans des lieux comme Paris et Londres, on crée des formes qui sont originales à ces lieux-là, qui, parce qu'elles reflètent l'expérience de l'exil, de l'immigration, parce qu'elles reflètent l'expérience des fois de seconde génération. On parle aussi d'un style de musique qui émerge à Londres, le Lovers Rock, qui est une qui n'existe qu'à Londres, qui est influencé par le reggae et qui est porté par cette seconde génération issue des migrations caribéennes à Londres et qui ensuite donnera le R&B. C'est vraiment voir comment Paris et Londres sont des creusets de nouvelles musiques et effectivement on a une présentation, une mise en visibilisation des identités de groupe qui est plus aisée dans le contexte britannique qu'en France, qui peut donner cette impression de styles musicaux qui fleurissent de manière plus aisée en Grande-Bretagne qu'en France, donc à Londres qu'à Paris. Mais nous, ce qu'on essaie de montrer dans cette exposition, c'est que c'est beaucoup plus complexe et qu'il y a une série de facteurs qui peut l'expliquer. Par exemple, le carnaval de Notting Hill est très important à Londres et arrive peut-être 10 ans avant qu'il y ait des manifestations équivalentes en Paris. Mais c'est parce que il y a une occupation de l'espace qui n'est pas la même qu'à Paris, où c'est mai 68 qui joue le rôle de déclencheur. Tout un ensemble de facteurs de contexte qui montrent qu'on ne peut pas juste dire c'est parce que ce n'est pas pareil Paris et Londres. En fait, on se rejoint sur beaucoup de points.
Oui, à Londres, il y a aussi l'aspect commercial parce qu'au Jamaïque, on a le lancement de reggae en 1968 et par la suite, il y a une maison de disques basée à Londres, Trojan, qui lance toute une série de disques de reggae à Londres qui a un impact énorme à Londres sur le mouvement skinhead. Au début, le mouvement skinhead était très influencé par le look jamaïcain et par la musique jamaïcaine. Très
et
important.
Par un d'entre eux, El Kaji.
England is a bitch. England is a bitch. When me just come to London town, me used to work on the underground. But working on the underground, you don't get to know your way around. England is a bitch. There's no escaping it. England is a bitch. There's no running away from it. Me get a little job in a big hotel, and after a while me was doing quite well. Them start me off as a dishwasher, but when me take a stock, me no turn clock watcher. England is a bitch. There's no escaping it. England is a bitch. Nobody try fi hide from me. When them give you the little wage pocket, force them rabbit with them big tax racket. You have to struggle fi make ends meet. And when you go your bed, you just can't sleep.
Paris, Londres, 1962-1989, c'est l'exposition, une exposition où il y a plein de choses à écouter, à voir, et puis une déambulation pour voir comment ces musiques venues des anciennes colonies ont changé la variété, les variétés populaires de France et d'Angleterre même. Est-ce qu'aujourd'hui d'ailleurs, puisque je suis aussi bien avec deux commissaires d'exposition, mais surtout des historiens de l'histoire de l'immigration, à savoir Angéline Escaffré-Dublé et Martin Evans, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est une histoire acquise, que tous les sons de ces colonies ont trouvé leur place dans l'univers de la pop, soit de France, soit d'Angleterre?
À Londres, c'est clair, parce qu'on a depuis 1968, c'est le reggae et l'impact des sound systems, surtout à travers le carnaval de Notting Hill, à partir au milieu de 1974. Et dans un sens, maintenant, avec la musique, la scène musicale à Londres, maintenant, le reggae, le sound system, c'est toujours un point de départ. Comme le grime, par exemple, comme le trap. Donc, cela veut dire que nous, on a montré...
Angéline Escaffré-Dublé, j'ai l'impression que Martin Evans est en train de dire que les Anglais sont beaucoup plus avancés que nous. Ils ont vraiment intégré. Est-ce que vous direz la même chose pour vous?
Non, moi, je pense que ce qu'on essaie de montrer dans l'exposition, c'est d'abord tout ce qu'on doit, tout ce que nos musiques actuelles doivent à ces apports, qu'on connaît pas toujours. Donc ça, c'est un peu quand on est historien de l'immigration, quelque chose auquel on est confronté souvent, c'est de faire connaître les apports de l'immigration qui sont pas forcément toujours connus. Et donc, voilà, on veut montrer ses ressorts, ses origines, cet héritage. l'héritage dont les musiques actuelles sont porteuses. À quel point aussi ces musiques doivent au combat. Ça n'a pas été facile pour beaucoup des artistes qu'on évoque. D'ailleurs, on fait connaître des figures qui ne sont pas forcément connues. Et puis, ce qu'on veut montrer, c'est qu'aujourd'hui, des fois, on a l'impression que tel style de musique est chouette et on ne sait pas à quel point ce style de musique est lié au combat, à des parcours d'artistes, et que sans les cultures des autres et les musiques des autres, notre musique serait ennuyeuse.
C'était ça le fil conducteur pour vous, pour cette exposition autour de la musique. C'est au palais de la Porte Dorée, donc au musée de l'histoire de l'immigration. C'est beaucoup plus le caractère politique, des revendications politiques des immigrés.
Nous, on a voulu vraiment construire une mise en visibilisation d'une histoire. C'est-à-dire que une histoire qui n'est pas forcément connue de cette contribution aux musiques qui sont produites dans chacun des pays à travers ces 30 ans, 3 décennies. Et à quel point la musique a servi à ces groupes à se rendre visibles.
Les ronrons et la trompe. J'que les gueules, j'que les gueules. Les gars, je sais. J'que les gueules, j'que les gueules. Les ronrons et la trompe. C'est Marie à Roya. C'est la ronron money. La ronron money. Danse d'aujourd'hui. Yeah, danse d'aujourd'hui.
Rachid Taha et carte de séjour. Pour illustrer vos propos, Angeline Escarfé Dublette, on aurait pu passer pour le côté anglais-asien Dub Foundation. C'est une exposition que je vous recommande. Moi, je la trouve plutôt très optimiste, hein, parce que vous ne parlez pas de la fin, de ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu en Angleterre ce qui se passe un peu en France, c'est-à-dire depuis les attentats du 11 septembre? C'est vrai qu'il y a de moins en moins de musique arabe, africaine, venue des anciennes colonies qui sont diffusées sur les ondes de la radio. Et ça, on se rend compte d'ailleurs en déambulant dans les années 80-90, quand on voit tout ce que ça a fait au niveau des médias, au niveau même de l'industrie du disque, avec des chanteurs, des groupes qui vendaient beaucoup, beaucoup de disques. Est-ce que aujourd'hui, vous vous dites que c'est une histoire qui a été stoppée, qui a été contrariée un peu par tous les événements ou pas du tout?
C'est les années 80 qui sont optimistes. Elles sont surtout optimistes en France. On avait une espèce de parenthèse dorée où on avait une valorisation de la différence qui était possible. Ça, en histoire des politiques d'immigration, on est couramment confronté à cette fin de cette parenthèse à la fin des années 80 avec une montée du Front National et des scores qui sont de plus en plus importants. Il faut savoir que dans les années 80, en Angleterre, c'était quand même les années Thatcher et c'était pas facile. Et je suis pas sûre que notre exposition est peut-être optimiste parce qu'on veut être optimiste, mais les années 70 apparaissent quand même comme des années difficiles. Les gens se sont retrouvés dans le militantisme et ce qu'on voudrait montrer, c'est à quel point la musique, de ce point de vue-là, est un refuge. Mais l'arme devait être à la mesure du combat qu'ils avaient à mener, parce que comme vous auriez peut-être constaté, c'était difficile d'être un immigré ou un enfant d'immigré, que ce soit à Paris ou à Londres. Par contre, ce qu'on veut dire aux générations futures, c'est qu'il faut rester ensemble et que la musique peut vous servir, parce que je pense pas que les combats sont terminés.
C'est pas une histoire achevée. Ce qui est important dans l'exposition, on en montre, à mon avis, à quel point les deux villes globales, Londres et Paris, se ressemblent. Donc cela veut dire peut-être Londres et Paris, comme deux villes avec beaucoup plus en commun, peut-être que Londres et Stoke, ou Paris et Valenciennes. Donc ça, c'est très important, l'idée d'une identité multiculturelle dans les deux villes, comme un point de départ.
Paris-Londres, 1962-1989, musique, migration. C'est l'exposition qui a lieu en ce moment au Musée National de l'Histoire de l'Immigration à Paris dans le 12e, au Palais de la Porte Dorée. Merci aux deux commissaires et historiens d'être venus nous en parler ce matin, c'est-à-dire Angeline Escarfé-Dublé et Martin Evans. Merci beaucoup d'être passé.
Merci beaucoup.
Shukran.
Brixton Prison, Jebabe, London Southwest to England,
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Les éditions Radio France présentent Papier, la revue de France Culture. À lire dans ce nouveau numéro, À quoi bon la littérature dans un monde d'images ? De Christine Angot à Naomi Wallace, plus de 50 écrivains répondent. Un dossier exceptionnel. Au sommaire également, une sélection de 30 romans essentiels pour comprendre notre temps, La crise sociale par l'historien Gérard Noiriel, une masterclass avec Riyad Satouf et un grand entretien avec Alain Touraine. Retrouvez Papier en kiosque et en librairie.
Étudiants, fans de cinéma,
allez moteur!
Testez votre sens critique en devenant juré du prix France Culture Cinéma des étudiants.
Visionnez chez vous 5 films présélectionnés et soutenus par France Culture cette année.
Et décernez le prix à votre lauréat lors du prochain Festival de Cannes. Monster! Pour candidater, rien de plus simple.
Envoyez-nous une critique du film de votre choix à comfranceculture@radiofrance.com et une copie de votre carte étudiante.
Allons-y!
Attention, vous avez jusqu'au 31 mars pour candidater.
Plus d'infos sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Le président des communes au Royaume-Uni bouleverse les plans de Theresa May. Il estime que le gouvernement ne peut pas faire voter le même texte du Brexit deux fois de suite. Theresa May espérait trouver un accord d'ici demain. Nous irons à Londres dans un instant. Nous irons ensuite à Strasbourg où les eurodéputés protestent contre la publication de sondages à 2 mois des élections européennes. Les dégradations de la mobilisation des Gilets jaunes à Paris samedi sont importantes. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, promet des accompagnements pour les commerçants. Quand le Premier ministre Édouard Philippe annonce lui des mesures sécuritaires, nous y reviendrons. Le président de la République, Emmanuel Macron, lui, hier, était à l'Élysée auprès de 64 intellectuels. Qu'en a-t-il pensé ? Compte rendu à suivre et à retrouver sur franceculture.fr. Les députés britanniques voteront-ils une nouvelle fois sur l'accord de Theresa May négocié à propos du Brexit ? La Première ministre espérait réussir à arracher une majorité cette semaine, mais il lui manque 75 voix. En quelques heures, elle lance donc ses dernières forces pour convaincre les députés, Antoine Gignot.
Cible, les unionistes nord-irlandais. Theresa May leur promet une augmentation des subventions. Elle organise des réunions avec les responsables du parti, sans résultat pour l'instant. La deuxième cible, évidemment, c'est le parti conservateur, avec les déclarations médiatiques de plusieurs hauts responsables, comme Esther McVie, ancienne ministre du Travail. « J'ai changé d'avis », dit-elle. « Je suis prête à soutenir la première ministre ». Déclaration insuffisante pour le moment. Mais l'homme qu'il faut surtout convaincre, c'est John Bercow, le président de la Chambre des communes, qui a voté pour rester dans l'Union européenne, a sorti hier soir sa botte secrète. Il s'appuie sur une jurisprudence qui date de 1604 et il affirme que Theresa May n'a pas le droit d'organiser un nouveau vote sur un texte qui a déjà été rejeté. Il faut, dit-il, des changements substantiels. Stupeur et colère au gouvernement, le ministre des prisons compare le président de l'Assemblée à Humpty Dumpty, le personnage à tête d'œuf, dédaigneux d'Alice au pays des merveilles. Ce Brexit version « je suis en retard » est décidément de plus en plus curieux.
Malgré le flou actuel autour d'une sortie du Royaume-Uni, l'Union européenne, elle, prépare ses élections. À 2 mois du scrutin, des élus s'offusquent même de sondages qui ont été publiés par le Parlement européen. Des projections de sièges, plus précisément, sorte de photo à l'instant T de la future Assemblée. Une photo établie à partir de sondages préexistants effectués dans chaque pays. Depuis un mois, 2 projections ont été rendues publiques. La troisième devait l'être la semaine dernière, mais la méthodologie et le principe de cette publication sont contestés, Louise Baudet.
Tout à sa volonté de communiquer. Pour mieux contrer l'indifférence médiatique et l'abstention citoyenne, le Parlement européen voulait publier des projections tous les 15 jours et même toutes les semaines dans la dernière ligne droite. Sauf que dans l'hémicycle, la fameuse photo passe mal, discutable sur le plan méthodologique et contestable sur le plan politique. On n'imagine pas l'Assemblée nationale en France, le Bundestag en Allemagne ou la Chambre des députés en Italie publier des sondages, s'étrangle David Sassoli du Parti démocrate italien, vice-président du Parlement. C'est lui qui a protesté le premier, mais pas parce que la gauche italienne est dans les choux, non, elle remonte au contraire dans les enquêtes d'opinion. Le problème, c'est que les sondages font croire à des rapports de force stabilisés. Ils influencent les électeurs, vieux procès ravivé par la crainte d'une percée populiste en mai. Alors, trop transparent le Parlement, son audace a en tout cas surpris les sondeurs. L'un d'eux s'attend à ce que l'expérimentation tourne court et soupire. L'apprentissage de la transparence est un long chemin parsemé de ronces. Quelqu'un a malheureusement marché sur une ronce.
Et la question de ces sondages sera tranchée jeudi après-demain. En France, la campagne pour les élections européennes débutera vraiment quand l'exécutif clôturera le grand débat national. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Les mesures annoncées hier sont sécuritaires pour répondre à la violence des manifestants. La violence de samedi à Paris sur les Champs-Élysées qui ont été pillées, dégradées. Hier donc, le Premier ministre Édouard Philippe a détaillé ces mesures. Des manifestations seront interdites dans les quartiers les plus touchés, les Champs-Élysées, la place du Capitole à Toulouse ou encore la place Préberlan à Bordeaux, si des casseurs sont vus sur place. Les amendes seront multipliées par 4 également lors des rassemblements non autorisés. Et puis le préfet de Paris a été limogé hier. Samedi à Paris, la menace avait été bien identifiée selon le Premier ministre Édouard Philippe. Il concède en revanche que la stratégie n'a pas été mise en œuvre. Et cela a donc engendré des dégradations importantes sur les Champs-Élysées. Hier à Bercy, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a reçu les responsables des fédérations de commerçants et d'artisans. Il promet qu'aucun commerce ne touché sur les Champs-Élysées ne mettra la clé sous la porte, que chacun sera aidé. Pour cela, le ministre annonce le renforcement de la communication autour de dispositifs d'accompagnement.
Nous avons donc décidé de généraliser les brigades d'intervention qui ont été mises en place à Toulouse et qui fonctionnent bien. Ces brigades d'intervention doivent désormais être mises en place dans toutes les grandes villes françaises. Elles doivent aller démarcher les commerçants, démarcher les artisans, les indépendants, avec l'ensemble des documents pour que ces artisans, ces commerçants, ces indépendants puissent être aidés pour remplir les formulaires, pour qu'ils puissent avoir en direct les conseils dont ils ont besoin et qu'ils puissent savoir de quels droits ils peuvent bénéficier. Je ne crois qu'au contact direct, et nous avons voulu avec Agnès Pannier généraliser ces dispositifs où c'est l'État et les services publics qui vont à la rencontre des artisans, des commerçants et des professions indépendantes et non pas l'inverse. Ça leur simplifie la vie, ça permet d'aller plus vite et ça permet de répondre à l'ensemble de leurs interrogations.
Et il a été question des violences, des dégradations des gilets jaunes hier soir à l'Élysée. La tyrannie d'une irréductible minorité, selon Emmanuel Macron. Le président de la République recevait 64 intellectuels pour échanger dans le cadre du grand débat national. Des discussions retransmises en direct sur France Culture de 18h20 à 2h30 du matin, Audrey Dumas.
Le débat aura donc duré plus de 8 heures. 8 heures durant lesquelles les invités ont dû faire preuve de patience avant d'intervenir. Monsieur le Président, on peut vous dire bonjour, lance le politologue Dominique Régnier après minuit passé. Quelques touches d'humour mais aussi des signes de fatigue. Les premiers intellectuels ont quitté la table après 5 heures d'échange. Un débat particulièrement long et pourtant parfois frustrant.
Un dernier point. Il y a le rôle du droit. Dernier. On n'est pas nombreuses, alors on tient un peu la parole. Hein, le pouvoir et le savoir, c'est ça.
Difficile de synthétiser, ils sont plus de 60 à vouloir s'exprimer. Économistes, sociologues, historiens, politologues. Les thèmes sont multiples. On passe du réchauffement climatique à la laïcité, en passant par la bioéthique. Des sujets parfois trop nombreux pour certains, comme la mathématicienne Amy Dahan qui aurait souhaité que les principaux thèmes du grand débat national soient davantage abordés. Une richesse pour d'autres. Olivier Beau, professeur de droit, salue également la prestation d'Emmanuel Macron.
En tant qu'universitaire, c'est assez impressionnant de voir ça. Parce qu'on est, nous, spécialisés. Et là, il y a un domaine d'intervention qui est très, très vaste, que ce soit en économie, en société, en droit. On est impressionnés par les réponses, même si on n'est pas toujours convaincus. Donc, il ne faut pas non plus être naïf. Il y a quelquefois des réponses qui laissent insatisfaits.
Reste tout de même une question. Quelle suite donner à cet échange? Emmanuel Macron a fait savoir qu'il souhaitait rendre ce débat, je cite, « régulier, fort et vivant », même s'il n'envisage pas de l'institutionnaliser.
Le chef de l'État qui n'a pas fait d'annonce particulière hier soir, si ce n'est qu'il ne reviendra finalement pas sur la loi de 1905 séparant les églises et l'État. Côté réforme, le cap ne va pas changer, martèle-t-il. Les manifestations n'y changent rien. Abdelaziz Bouteflika a confirmé hier via les médias officiels qu'il prolongera son 4e mandat au-delà de son terme constitutionnel, à savoir le 28 avril. Il restera à la tête de l'Algérie jusqu'à l'organisation d'un nouveau scrutin qui ne sera organisé qu'à l'issue d'un processus de révision constitutionnelle. Aujourd'hui, mardi, la jeunesse algérienne se mobilise une fois encore. Le militant russe des droits de l'homme, Oyoub Titiev, a été condamné hier à 4 ans d'enfermement dans une colonie pénitentiaire. Au moment de son arrestation il y a un an, il enquêtait sur les prisons secrètes du régime tchétchène. Il a finalement été condamné hier pour possession de drogue. Une accusation qu'il dit montée de toutes pièces par les autorités, Claude Bruyot.
180 grammes de marijuana auront suffi pour mettre fin à la présence de Mémorial, la dernière organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme, encore active en Tchétchénie. Lorsqu'ils arrêtent au Youptitiev en janvier 2018, les policiers de Grozny disent avoir découvert la drogue dans un sac en plastique à l'avant du véhicule. Même le très réservé comité présidentiel des droits de l'homme à Moscou affirme dès le début que la substance a pu être glissée là pour nuire à Youptitiev. Depuis de nombreux mois, en effet, le responsable de Mémorial enquête sur les prisons secrètes dans lesquelles ont pu être détenus et torturés, notamment des homosexuels tchétchènes et des opposants, selon le quotidien indépendant Novaya Gazeta. Titiev et Mémorial sont stoppés alors dans leurs recherches par cette arrestation. La pression internationale qui s'exerce sur le chef de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, afin qu'il fasse libérer le militant des droits de l'homme, est dénoncée à Grozny comme de l'ingérence. Le prix Vaclav Havel des droits de l'homme, décerné à Titiev par le Conseil de l'Europe à l'automne dernier, n'y changera rien. 4 années de camp requises, 4 années prononcées. Le rideau est tiré sur ce qu'Amnesty International qualifie d'affront aux droits de l'homme. Alexei Navalny, l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine, parle lui d'un honnête homme emprisonné sur ordre de Kadyrov. Pendant ce temps-là, le maître du Kremlin, lui, était en Crimée, occupé à fêter les 5 ans de l'annexion de la péninsule, bien loin de toutes ces considérations.
Le cyclone qui a balayé en fin de semaine dernière le Mozambique et le Zimbabwe a fait au moins 182 morts dans les deux pays. Rien qu'au Mozambique, pourtant, le président du pays prévient, ce bilan pourrait dépasser le millier de morts. En France métropolitaine, le temps sera heureusement bien plus calme, marqué par des éclaircies aujourd'hui, avec des températures fraîches, 6 degrés à Strasbourg, 9 à Paris, 13 degrés à Nice. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
C'est l'heure sur France Culture de votre journal des idées. L'auteur de l'attentat en Nouvelle-Zélande vendredi matin a mis en ligne un manifeste de 74 pages, un texte intitulé Jacques, le grand remplacement.
Oui, l'expression est employée et diffusée en France par Renaud Camus dans un livre de 2011 qui porte ce titre, le grand remplacement. Sa thèse est celle d'une entreprise délibérée, ourdie par les élites mondialisées, de la substitution progressive des Français de souche par l'immigration musulmane de l'Afrique et du Maghreb. Il faut dire tout de suite que Renaud Camus a condamné les attaques contre les mosquées en Nouvelle-Zélande et que son nom n'est pas cité dans le document en question. Par ailleurs, dans le Figaro Vox, Jean-Yves Camus, chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'extrême droite, souligne le caractère disparate des références revendiquées par le terroriste. En particulier, l'écofascisme, une idéologie qui compte quelques adeptes, dans les milieux de l'ultra-droite et qui prône à la fois la préservation de la nature et celle de la diversité ethnique, considérée sous un angle biologique. En somme, de même qu'il faudrait préserver la biodiversité des espèces dans la nature, il s'agirait de conserver chaque ethnie humaine dans son écosystème propre. Et si ce ressortissant australien a choisi de commettre son crime en Nouvelle-Zélande, où les musulmans ne représentent que 1% de la population et où ils sont bien intégrés, c'est, selon ses dire pour montrer que le processus dit de grand remplacement est à l'œuvre dans toutes les parties du monde occidental, y compris les plus reculées. Sur les risques de passage à l'acte dans notre pays, Jean-Yves Camus rappelle qu'à la suite des premiers attentats islamistes, le directeur général de la sécurité intérieure, Patrick Calvar, indiquait que ses services étudiaient le scénario de représailles par des éléments de l'ultra-droite visant à instaurer un climat de guerre civile, une hypothèse de travail demeurait en l'état. Dans Le Monde, Stéphane François évoque les idéologies d'origine anglo-saxonne dont se réclame le tueur de Christchurch, en particulier le courant nativiste qui, à la fin du 19e siècle, insistait sur la faible natalité des Européens par rapport à la fécondité des populations arabo-musulmanes. Le chercheur associé au groupe Société Religion Laïcité du CNRS, École Pratique des Hautes Études, relève également les thématiques de l'extrême droite suprémaciste, notamment l'idée d'un génocide lent de la race blanche par une immigration extra-européenne, et il souligne souligne que Renaud Camus n'est pas l'inventeur de la théorie du grand remplacement, une thèse développée en Europe à la fin des années 1940 par les néo-nazis. René Binet, un Français, ancien SS, et le Suisse Gaston Armand Amodruz, théoricien raciste et militant négationniste. Ça lui fait quand même une belle généalogie. D'autant que la condamnation par le terroriste des sociétés multiculturelles mettant en avant le supposé échec de l'intégration au motif que les populations extra-européennes imposeraient leur mode de vie aux populations européennes blanches sous l'influence de l'extrême gauche est un refrain bien connu au-delà des groupuscules situés dans l'orbite de l'extrême droite identitaire. Comme le souligne Valérie Igounet dans les mêmes pages idées du quotidien du soir, elle fait partie intégrante de l'argumentaire de formation politique représenté au Parlement. Le concept de grand remplacement tend à se banaliser dans une partie de l'opinion publique, observe l'historienne spécialiste du négationnisme, qui impute cette banalisation à la rhétorique anti-immigration. Hier soir, dans l'échange avec des intellectuels diffusé sur notre chaîne, le président de la République a évoqué l'islam en recommandant de ne pas mélanger le fait culturel et le fait migratoire. S'il est vrai que le voile, question lancinante s'il en est, le voile est un symbole d'oppression dans de nombreux pays, paradoxalement, il peut avoir dans nos démocraties laïques de toute autre signification. Et pour Virginie Silhouette d'Hercourt, il ne peut pas être réduit à la question de la domination. Il n'y a pas un, mais des voiles. La sociologue observe qu'en pratiquant le bricolage des styles, les jeunes femmes défient les règles que les faiseurs de mode de tous bords veulent leur imposer et contestent la représentation du corps des femmes telle qu'elle apparaît dans les médias et sa marchandisation. Elle suggère de s'intéresser à ces forces vives, éduquées dans le système français, connectées au monde par leurs origines mais aussi par leurs envies et qui, de toute façon, comptent bien poursuivre leur parcours de réussite. Dans les pages idées de Libération, Pierre-Yves Joffard évoque l'étude de deux chercheuses de Stanford sur les conséquences de la loi française de 2004 interdisant le port du voile à l'école. Elle pourrait avoir contribué à renforcer l'importance de la question identitaire et encourager une forme de polarisation. Et loin d'avoir contribué à l'émancipation de ces jeunes filles, elle a bien au contraire réduit et de manière durable leur autonomie. 6h45 sur France Culture pour deux secondes encore. Et voilà, il est 6h46. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Voilà, c'est l'heure des enjeux internationaux. Aujourd'hui, la Turquie entre récession et élections.
C'est ça, les élections, c'est dans deux semaines. Elles seront passées le dimanche. Alors qu'il y a une semaine maintenant, l'économie turque entrait officiellement en récession pour la première fois depuis 10 ans. Un quart des électeurs serait d'ailleurs indécis pour ces élections. L'AKP du président Erdogan voit faiblir en effet un de ses chevaux de bataille. Reste maintenant celui du renouvellement des cadres et surtout celui du nationalisme. Mais suffira-t-il à éviter l'essoufflement? On pèse ça avec vous avant les élections. Ahmet İnsel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone. Vous êtes professeur émérite de l'université Galatasaray, économiste, politologue et producteur d'une chronique hebdomadaire sur Açık Radio à Istanbul. Alors le président Erdogan, lui, plutôt combatif hein, en ce moment, en tournée avec 2-3 meetings par jour sur la mer Égée, mais les mauvais chiffres économiques qui s'accumulent et cette récession confirmée il y a une semaine. Le chômage aussi, lui, à la fin de la semaine dernière, on l'a appris, qui a atteint un plus haut depuis 2009, 13,5%. On pourrait dire, Ahmet İnsel, que ce sont des données qui tombent au plus mauvais moment pour un parti qui a construit sa réputation sur ses scores économiques en grande partie.
Tout à fait. Ralentissement économique, voire des éléments de récession, ont rendu très difficile, beaucoup plus difficile, la campagne électorale du parti au pouvoir, du parti de Tayyip Erdogan. Et d'ailleurs, c'est en perspective un peu de ce ralentissement économique que Tayyip Erdogan avait inversé les élections, qui normalement, les élections législatives et présidentielles étaient prévues pour novembre 2019. Et il a avancé d'une année ses élections en juin dernier, et Et pour éviter justement affronter l'opposition dans un environnement encore plus difficile.
Reste que ces chiffres ont donné lieu à une suite de commentaires là, de la part du ministre de l'économie la semaine dernière, assez long, où il disait le pire est passé en termes d'activité économique, les prévisions les plus pessimistes ne se sont pas matérialisées. C'est vrai qu'il y avait déjà eu une récession après la crise de 2008-2009. Là, est-ce qu'on a affaire à une crise conjoncturelle liée aux difficultés avec les États-Unis, on le sait, des droits de douane qui ont doublé sur certains produits, ou un ralentissement plus général et plus inquiétant?
La crise de 2008-2009 était une crise strictement externe à la Turquie qui avait un effet, alors qu'aujourd'hui la crise a une origine totalement interne. Il y a le ralentissement de l'économie mondiale qui accélère les effets, mais il y a l'épuisement de la croissance économique en Turquie, l'épuisement de cette croissance basée essentiellement sur le bâtiment et travaux publics, construction, etc. Et on voit par exemple le secteur du bâtiment est vraiment en crise aujourd'hui avec énormément d'immeubles qui ne se vendent pas, et les secteurs qui sont touchés par les importations avec une dépréciation très forte de la livre turque depuis un an et demi. Les effets de tension avec les États-Unis sont des causes accélérateurs de cette crise, mais ne sont pas à l'origine de cette crise. Le ralentissement de l'économie turque était attendu depuis quelques années, et le gouvernement et Tayyip Erdogan a maintenu cette politique de croissance un peu surchauffée par des moyens de bord, mais qui s'épuisent aujourd'hui. Par exemple, les réserves de la Banque centrale diminuent, il y a une fuite des capitaux très importante et un ralentissement très très important des investissements directs étrangers.
Et de ce point de vue-là, qu'est-ce que ça signifie alors ces inaugurations, on dirait répétées, de grands projets de la part du président Erdogan? Il y a eu évidemment l'aéroport d'Istanbul, enfin le nouvel aéroport international, et puis le nouvel l'hôpital d'Ankara, 3800 lits, 1 milliard d'euros inauguré la semaine dernière. On parle aussi d'un projet de canal à 16 milliards d'euros qui n'est pas fait, mais pour doubler le détroit du Bosphore. À quoi ça correspond ces grands investissements alors?
Il a toujours ce schéma en tête, un peu à l'ancien, où quand le bâtiment va ou quand les travaux publics vont, tout va. Mais ça s'épuise évidemment. Il veut dynamiser l'économie par le bâtiment, par les travaux publics. D'autre part, c'est aussi une manière de montrer qu'on fait des choses en Turquie, puisque le discours de Tayyip Erdogan a été toujours un discours quasiment, je dirais, de maire d'une grande ville. C'est-à-dire, nous faisons des routes, nous ramassons bien les poubelles, vous avez de l'eau qui coule dans vos robinets, etc. Donc du coup, une logique de service aux usagers, mais ce service aux usagers n'est pas alimenté par une économie de plus en plus ralentissante. Donc du coup, l'augmentation de la dette inquiète considérablement, et puis des dérapages budgétaires. Jusque-là, le déficit budgétaire de la Turquie n'était pas très inquiétant, même mieux que les indicateurs en France. Mais par exemple, depuis 3 mois, il y a une ouverture des vannes de budget public qui a fait passer très très rapidement à des niveaux beaucoup plus élevés le déficit budgétaire.
Oui, et en ce qui concerne, c'est intéressant ce que vous disiez sur Erdogan avec une logique de municipalité, parce que il y a le gouvernement qui a mis en place des stands pour la vente de produits légumes et fruits frais moins chers là, pour pallier un peu à la baisse du niveau de vie des classes moyennes. Justement, ces 25% d'indécis, c'était dans The Arab Weekly la semaine dernière. Est-ce que ça indique un risque de désaffection, comme le disent certains, voire de retournement du vote des électeurs classe moyenne de l'AKP?
Oui, une partie des électeurs de classe moyenne de l'AKP sont hésitants. D'ailleurs, aujourd'hui, il est possible, bien sûr, c'est totalement indéterminé, mais il est possible que l'AKP et son allié, le parti d'extrême droite nationaliste, qui se présente ensemble aux élections,
le MHP.
Le MHP, le Parti d'Action Nationaliste, perdent les grandes municipalités d'Istanbul, d'Ankara, que AKP contrôle, je rappelle, depuis 1994, sans interruption. Et il est possible, il est fort, bien plus possible à Ankara que le candidat de l'opposition puisse gagner. Istanbul semble être un peu la différence dans un mouchoir de poche. Et Adana, d'autres grandes villes, Bursa, risquent aussi peut-être de passer dans l'opposition. En tout cas, nous ne sommes plus dans une configuration où Tayyip Erdogan est sûr de gagner les grandes municipalités, alors que l'image de marque d'apparition même d'AKP est associée à la gestion d'Ankara et d'Istanbul particulièrement.
Oui, avec un parti AKP qui avait gagné effectivement toutes les dernières élections locales et qui domine encore à 43% ce paysage, on pourrait dire, local. Un référendum constitutionnel en 2017 qu'on pourrait dire de mauvais augure, puisque la majorité des noms ont été dans les villes quand même. Et puis, dernière chose sur la configuration du scrutin, on a un peu l'impression aussi qu'il y a des coalitions ou que ce sera un scrutin de bloc. Là, ça, c'est assez nouveau, une alliance entre AKP et les nationalistes MHP, vous l'avez dit, mais aussi une alliance entre deux principaux partis de l'opposition, le CHP, également plutôt libéral-nationaliste, et puis plutôt le bon parti libéral-nationaliste, et le CHP, qu'on dirait quoi, libéral-centre-droit.
Oui, libéral centre droit, social-démocrate, le CHP. Et les deux partis ont fait alliance pour la majorité des municipales, mais cette histoire d'alliance a été inventée par Tayyip Erdogan, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que pour les élections législatives et présidentielles, auparavant, le système électoral en Turquie, le système électoral interdisait toute alliance pré-électoral entre les partis politiques, parce que désormais Tayyip Erdogan, avec le système présidentiel à deux tours, a besoin de dépasser les 50%, et on constate que finalement sa base électorale varie entre 42 et 50%. Donc du coup, il a besoin d'un apport permanent d'un autre parti politique, et il a fait alliance avec l'extrême droite nationaliste. Donc du coup, nous sommes dans une configuration à 2,5. D'un côté, l'alliance islamo-nationaliste, conservateur nationaliste dur, avec à sa tête Tayyip Erdogan. En face, une opposition plus faible, mais alliance d'une droite nationaliste libérale et d'une social-démocratie centriste, et une troisième groupe formé par le Parti démocratique de peuple, qui regroupe essentiellement les Kurdes et la gauche socialiste, qui, dans certaines municipalités, ne présente pas de candidat afin d'affaiblir encore plus les chances du parti au pouvoir.
Oui, ça aussi, c'est un fait nouveau, effectivement, ce retrait un peu stratégique du HDP. Bah, écoutez, on aura l'occasion d'en reparler avant les élections, donc le 31 mars. Et pour le moment, également de la rhétorique nationaliste de Erdogan, la manière dont elle a porté ou non. Et pour l'instant, merci pour vos explications, Ahmet İnsel. Je rappelle, professeur émérite à l'université Galatasaray et producteur de la chronique hebdomadaire sur Acek Radio à Istanbul. Merci et bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture, la Bibliothèque nationale de France et le Centre national du livre présentent En lisant, en écrivant, une collection de masterclass littéraires en public avec de grands écrivains contemporains. Ce soir, à 18h30, retrouvez Catherine Millet, directrice de la rédaction d'Art Presse, commissaire d'exposition et auteure de La vie sexuelle de Catherine M., une rencontre animée par Julie Gacon. Entrée libre dans la limite des places disponibles à la BNF François Mitterrand Paris 13e. Programme complet, franceculture.fr.
Tous les jours sur France Culture à 11h, Culture Monde, le magazine sans frontières, Florian Delorme.
À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, nous vous proposons cette semaine une série consacrée aux langues. On parlera de francophonie, bien sûr, des politiques pour la promouvoir, mais aussi de ce qu'elle peut représenter en termes de domination. On s'intéressera également au processus de disparition des langues, aux alphabets qui peuvent être au cœur de conflits identitaires, sans oublier l'intelligence artificielle qui pourra accomplir le rêve d'une communication instantanée et universelle.
Culture Monde, le magazine sans frontières, de lundi à vendredi à 11h et sur franceculture.fr.
Et à 6h57 sur France Culture, c'est l'heure des matins avec Guillaume Erner. Bonjour Guillaume.
Bonjour Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Alors il paraît que la Saint-Glinglin, c'est demain.
Oui absolument, c'est le journal Le Parisien qui me l'apprend. La Saint-Glinglin, ça sera donc désormais le 20 mars, hein, Xavier. Alors pourquoi le 20 mars? Eh bien tout simplement parce que c'est trois jours avant la Saint-Victorien qui est, paraît-il, le saint patron des commerçants. Alors évidemment, cette Saint-Glinglin a tout d'une opération de communication. Elle est même directement créée par une agence de com' qui tente ainsi de ranimer les ventes dans le petit commerce, lesquelles ventes sont en soins intensifs depuis quelques mois. La Saint-Glinglin tente de voler au secours des magasins qui en ont bien besoin. Pourtant, la Saint-Glinglin n'a semble-t-il rien à faire le 20 mars, dans une fête française qui plus est, puisqu'il s'agit, peut-on lire, au départ d'une fête belge. La Saint-Glinglin découlerait du rapprochement de deux villes belges, Glin, G-L-A-I-N et Glin, G-R-H. L.I.N. La Saint-Glinglin étant normalement fêtée le troisième week-end de juin, Xavier. On peut aussi apprendre que la Saint-Glinglin est célébrée dans la commune de Jaune, en France, le dernier samedi du mois d'août par un mannequin empaillé. Alors tout ça pour dire que cette Saint-Glinglin est une création commerciale pure qui ne doit absolument rien à un saint quelconque du calendrier, et c'est ça la vraie nouveauté. Jusqu'à présent, on avait tendance à transformer en fête commerciale des fêtes du calendrier. C'est ainsi que les saints traditionnels, la Saint-Valentin, Halloween, sont devenus des jours importants dans le calendrier commercial, puisque oui, jadis, il y a très très longtemps, vous étiez pas né, Xavier, Halloween relevait d'une véritable coutume et ne consistait pas encore à orner d'une citrouille les vitrines des magasins. Bientôt, la totalité de notre calendrier sera dictée par des fêtes commerciales, la fête des mères, la fête des pères, Pâques, sans oublier, bien entendu, Noël. Avec la Saint-Glinglin, les saints servent désormais à sanctifier les ventes. C'est en quelque sorte la réalisation de la prophétie de Marx sur la religion de la marchandise, ou plus exactement sur le fétichisme de la marchandise. Il était normal que dans la religion marchande, les saints finissent par célébrer cette marchandise.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Herner.
Je ne vous apprendrai rien en disant que le climat social est actuellement tendu, que l'espace politique tend à se polariser. Eh bien, voici un homme qui a fait le pari inverse. Il s'inscrit dans une tradition social-démocrate assumée. Il s'agit de Laurent Berger. Il est secrétaire général de la CFDT. Il a assumé comme acteur social de prendre, disons, ses distances avec les Gilets jaunes. Il ne participe pas à la manifestation qui aura lieu aujourd'hui, qui est proposée notamment par la CGT et par Force Ouvrière. Il souhaite donc organiser un dialogue avec toutes les parties prenantes du débat social. Et il sera notre invité aux environs de 7h40, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. En attendant, il est 7h sur France Culture et voici le journal.